scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison, épisode 155. L'efficacité de l'aïkido. Alors aujourd'hui, je suis avec David Puccella, que vous connaissez si vous avez déjà, pour certains d'entre vous, écouté le balado, mon autre balado par-delà les montagnes hallucinées, consacré au jeu de rôle. C'est un de mes joueurs dans la campagne. Mais aujourd'hui, je l'ai invité pour qu'on discute de l'aïkido, parce qu'on. J'ai fait un épisode il y a quelque chose comme 2 mois sur l'efficacité des arts martiaux, où j'avais surtout parlé des trucs qu'on appelle le Bushido, donc le ki, le bras impliable et tous ces machins-là, la projection à distance, la mythique projection à distance. Mais j'ai eu pas mal de feedback sur cet épisode, alors je me suis dit que c'était pas mal d'en faire un autre, plus centré justement sur l'aïkido, et alors comme ça me permet d'inviter David, ça m'évitera de parler tout seul, vous entendez une autre voix que moi. Bonjour.
Bonjour Jean-Michel.
Oui, alors évidemment je ne l'ai pas encore présenté, mais pourquoi je l'ai invité? Pas parce qu'il fait des jeux de rôle avec moi, mais parce que je l'ai invité parce qu'il est, ce qu'on appelle le senpai dans mon club, c'est l'assistant du professeur, et il est deuxième dan de l'Union Belge Aikido. La dernière fois, un des auditeurs m'avait envoyé un mail pour me demander quelle fédération j'étais, donc vous le savez. Oui, il donne pas mal de cours. Enfin, tu peux peut-être un peu présenter ton parcours d'aïkidoka.
Waouh. Alors, mon parcours d'aïkidoka. Alors, ça a commencé il y a 10 ans, quand j'étais encore tout jeune, tout frais et tout naïf. Donc, bon, on a commencé ensemble au même dojo. Je crois que tu étais ceinture orange à l'époque, quand j'ai commencé.
C'est ça,
J'ai commencé chez Claude à Wavre. On a commencé avec 2 cours par semaine. Par la suite, on a voulu un petit peu diversifier, on est allé à la Hulpe, donc ça nous a fait un 3e cours. Puis par la suite, moi j'ai voulu me diversifier encore un peu plus et j'étais chez Jean, ce qui me faisait 4 cours. Et bon voilà, petit à petit, j'ai tourné avec les hauts gradés de la fédération. Puis par la suite, on a eu quand même pas mal de maîtres extérieurs, dont Bécard, qui est quand même qui est bientôt 7e dan à Ikikai. On est allé faire un petit tour au Japon ensemble aussi. Toi, tu as décidé d'y retourner, de rester un petit peu plus longtemps. Et donc voilà, petit à petit, je me suis mis à donner des cours. D'abord, des cours enfants comme assistant, puis comme professeur. Et de temps en temps, je donne des cours de remplacement pour les adultes. Voilà, c'est déjà pas mal.
Ouais. Moi, tu t'entraînes, contrairement à moi, tu t'entraînes beaucoup. Je crois que tu en as quoi, 4 cours par semaine, plus que ça.
Non ? Alors, si on compte juste les entraînements, oui, ça fait 4 cours par semaine s'il n'y a pas les stages. Mmh. Si on rajoute des cours enfants, ça fait quand même nettement plus.
Voilà pour tes compétences. Et alors, tu as passé 2e dan l'année dernière, c'est ça? Ou il y a 2 ans?
Non, il y a presque 3.
3 ans déjà, hein, moi. Je t'en passe.
Je ne rajeunis pas.
Donc voilà, ça c'était pour que vous sachiez un peu d'où il vient et pourquoi il nous parle d'aïkido. La question que je voulais te demander, c'était si... Si au départ, si un débutant vient, il fait un cours d'essai comme ça, ça arrive souvent, et qui te demande est-ce que l'aïkido c'est efficace en combat réel, qu'est-ce que tu lui dirais?
D'abord, je peux pas m'empêcher de rigoler un petit peu. Ensuite, est-ce que l'aïkido a de l'efficacité? Oui, bien sûr. Sinon, ça vaut pas la peine. Ça a de l'efficacité, mais faut pas rêver. C'est pas après 1 an ou 2. Il faut au moins mettre au moins une bonne dizaine d'années pour travailler de manière assez intensive. Et là, oui, on peut avoir quand même une certaine efficacité. Comme je dis souvent à mes élèves, l'aïkido, c'est du recyclage d'énergie. On prend la force de l'autre, on la retourne contre lui, bien sûr. Tout ça, c'est ce qu'on va dire, c'est une métaphore. C'est pas de véritable énergie, comme on voit dans les mangas, des boules de feu qui sortent ou des choses comme ça. C'est simplement être au bon endroit au bon moment. Si quelqu'un fait 2 mètres de haut, il fait 150 kg de muscles, il veut vous frapper, c'est très simple. Vous êtes petit, vous faites 1m20, vous faites 30 kg tout cassé. Si le gars veut vous frapper, il est obligé de se pencher. S'il se penche, ça crée un déséquilibre. Il faut profiter de ce déséquilibre qu'il va vous mettre. Donc effectivement, oui, il y a un certain... Mais il faut savoir l'utiliser au bon moment. C'est ça la difficulté. Donc de l'efficacité, oui, on peut en trouver, mais certainement pas après 3 cours. Maintenant, si vous voulez de la réelle efficacité, vous allez en salle de sport, vous vous dopez aux hormones, et puis vous allez prendre des leçons de tir de shotgun. Voilà, vous serez efficace, il n'y a pas de problème.
C'est le fameux truc qu'on dit toujours, en situation d'agression, finalement, c'est la course à pied qui fonctionne le mieux, il faut s'enfuir,
Oui, mais là, on n'a pas le choix parce que l'aïkido, ça demande beaucoup sur les genoux. Et au bout de 10 ans d'aïkido, on n'a plus de genoux. Donc, on est obligé de savoir faire quelque chose. On sait plus s'en courir, c'est fini.
Oui, enfin, l'idée qu'il faut beaucoup s'entraîner avant de devenir efficace, ça acquiert une certaine maîtrise. Bon, nous, par exemple, ça fait même plus de 10 ans qu'on en fait, mais j'avais essayé de calculer l'autre jour, je crois que ça fait plus proche des 15 ans que des 10.
Mais on n'a pas compté, ça nous fait mal.
mais t'as l'impression qu'à un niveau de ceinture noire, on serait plutôt efficace en comparaison, ou t'as l'impression même que c'est plutôt les maîtres, vraiment les gars à 6e dan qui en font ça toute leur vie
Les maîtres qui ont fait ça toute leur vie. Oui, c'est certain. Disons que c'est pas... Ça, disons que le fait de le faire, c'est pas le fait de l'avoir fait 10 ans ou 20 ans, c'est surtout la fréquence à laquelle on l'a fait. Moi, j'en fais presque tous les jours. Donc, ce qui fait, en fait, ça développe certains réflexes, certaines aptitudes. Donc, quand il y a quelque chose qui va vers moi, j'ai plus facilement le réflexe d'esquiver. Quand un objet tombe, j'ai plus facilement le réflexe de le rattraper. Je peux plus facilement me positionner. Et c'est ça qui va me donner un petit avantage. Qu'est-ce qui va déterminer que telle forme d'art martial est plus efficace que d'autres ? Ce n'est pas l'art martial en lui-même, c'est simplement la vitesse de réaction de la personne, la manière de réagir rapidement, c'est ça qui va faire qu'on va être plus efficace. C'est tout. Donc quand on pratique beaucoup, le corps acquiert certains réflexes dont on ne se rend même pas compte. Ça sort comme ça, tout seul, au bout d'un moment. Donc là, ça devient intéressant. Mais vraiment, étudier la forme, on va dire, d'un point de vue intellectuel et penser que ça va suffire, parce que je sais décortiquer la technique, faire A, B, C, D, E, F... Non, c'est pas ça qui va faire. C'est l'entraînement, c'est le travail physique qui va faire que ça va devenir intéressant.
Oui, moi j'allais aussi vers les personnes plus âgées, parce que, bon, un des avantages de l'aïkido, c'est que ça peut se pratiquer très longtemps par rapport au sport de combat où on est généralement cassé à 40 ans, sa carrière est finie. Bon, alors on pourrait dire, bah oui. Enfin, moi j'ai. Je ne peux plus avoir, on a eu des gens déjà de 60 ans et plus même.
Oui, ben plus.
J'en avais, je crois qu'un des profs avait près des 70.
Oui, on a Albert Paul School qui fait beaucoup plus que les 70, oui.
Ouais. Et donc forcément, pour eux, ben, je veux dire, s'ils avaient fait un sport de combat violent, ils auraient déjà arrêté depuis longtemps. Donc le fait qu'ils continuent, c'est un des avantages. Enfin, il y a une certaine forme aussi d'efficacité là-dedans, dans cet aspect-là, non ?
Ben, vu que l'aïkido, comme j'ai dit au début, c'est du recyclage d'énergie, c'est l'autre, c'est l'attaquant qui fournit l'énergie au système. S'il vient avec beaucoup d'énergie et qu'il est très très fort et qu'on maîtrise un temps soit peu la technique, ça va très bien. Mais si la personne qui est en face n'a aucune force ou ne met aucune énergie dans une attaque, on ne peut strictement rien faire. Pour attaquer un aïkidoka, il ne faut pas le frapper. On vient gentiment, on le saisit calmement, il ne sait rien faire. Par contre, si on lui donne un coup de poing rapide et énergique, là c'est différent. Là, il peut faire quelque chose. Alors effectivement, dans la mesure où c'est l'énergie de l'attaquant qui est importante et pas celle de l'attaqué, oui, on peut faire ça à n'importe quel âge.
Oui, il y avait cet aspect-là, l'aspect pratiquer longtemps, donc forcément, à un âge avancé, ça présente, c'est un avantage stratégique. Mais il y a aussi toute la composante arme, enfin, donc voilà, et pour ceux qui, je suppose qu'il y a plein de gens qui ne savent pas, donc en aïkido, on fait du sabre en bois qu'on appelle du boken, du bâton, du jo, et même des entraînements au couteau, on a des tantos, des couteaux en bois. C'est quand même quelque chose qui différencie des autres arts martiaux. Moi, tout un temps, je disais que l'aïkido, finalement, c'était de l'escrime à main nue. Comment tu vois cet aspect, l'utilisation du sabre, etc.
L'utilisation du sabre, c'est clairement, on va dire, un héritage de nos lointains ancêtres samouraïs, on va dire. Mais le travail du... Quand l'aïkido était développé à l'époque, c'était surtout des techniques de désarmement, puisque ça a été créé pour contrer les armes qu'il y avait à l'époque au Japon, c'est-à-dire les bâtons et les armes blanches. Donc... C'est normal qu'on en ait gardé des traces. Ouais. C'est plus une tradition qu'autre chose. C'est certain qu'aujourd'hui, plus personne se balade avec un katana en rue, à moins d'aller au salon du manga, pourquoi pas, mais en général, c'est assez rare de se faire attaquer. Mais en revanche, tout ce qui est technique couteau et compagnie, oui, bon, là, on a encore une réelle efficacité. D'ailleurs, quand on regarde les autres arts martiaux, comme le Krav Maga, par exemple... Ou même, simplement, l'entraînement, j'ai vu il n'y a pas longtemps, l'entraînement des gardes suisses du Vatican. Oui, papa. Ils utilisent des techniques qui sont basées sur l'aïkido. Mm-hmm. Pour le désarmement du tento, les côtés gaeshi, des choses comme ça, ça reste vraiment des standards. Donc oui, ce sont des formes qui sont assez efficaces au couteau et qui ne sont pas, on va dire, que des artefacts.
Discutant avec des gens qui pratiquaient, j'avais un copain à l'UNIF qui s'était fait attaquer avec un manche de brosse de balai.
C'est une arme comme une autre.
Ça ressemble à ça. On pourrait imaginer des situations. Enfin, d'ailleurs, dans Steven Seagal, ils en présentent tout le temps, hein, la batte de baseball, la kit bia. Qui sont des... Bon, évidemment, c'est vrai que la probabilité que tu te fasses attaquer avec une kit bia dans un bar, t'es pas la plus élevée. À ce moment-là, à la limite, tes techniques d'aïkido pourraient te servir, non?
À ce moment-là, oui. Je pense sincèrement que oui. Il faut juste savoir se relâcher et, on va dire, laisser la technique parler par elle-même, laisser le corps s'exprimer par lui-même, le laisser faire les mouvements qu'il a appris. Mais ce qui est difficile aussi, ça va être de faire sauter, on va dire, la sécurité. Parce que quand on travaille, quand on s'entraîne, à un moment donné, on a envie de mettre un petit peu d'énergie dans son travail. Et on est obligé de se restreindre pour pas blesser le partenaire. Et quand on se retrouve en situation de combat réel, la difficulté, ça va être de faire, on va dire, sauter cette sécurité et d'oser libérer ce qu'on a étudié. Mais oui, si on est attaqué par quelqu'un qui a une queue de billard, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. En tout cas, ça va lui faire un fameux effet de surprise.
Oui, enfin, dans les critiques que moi, qu'on donne souvent, enfin, j'en avais parlé, je crois, dans le précédent épisode. Bon, le problème de l'aïkido, c'est qu'on travaille pas si fort que ça à la condition physique. Mais toi, tu fais pas mal d'entraînement à la condition, enfin, cardiovasculaire chez toi, je pense. Tu peux nous en dire un mot? Enfin, je pense que c'est quelque chose d'important ou quelque chose qui manque dans l'entraînement de base de l'aïkidoka ou...
Alors, est-ce que c'est déterminant? Non. Est-ce que c'est important? Oui, une bonne condition physique, c'est toujours important. Alors, on ne fait pas beaucoup de conditions physiques. Ben, on va dire que ça dépend d'un dojo à l'autre. Il y a des dojos qui sont très axés sur la condition physique, d'autres beaucoup moins. Par exemple, quand on allait voir Jean, lui, ses entraînements sont beaucoup plus axés sur la condition physique. J'étais faire du judo récemment. Là, on a un entraînement qui est aussi beaucoup plus axé sur la condition physique. Et donc oui, c'est quand même important pour pouvoir tenir la distance. Si on commence à avoir une quinte de tout au milieu d'une technique, si on est essoufflé, c'est pas évident. À moins de super bien maîtriser ses mouvements et de très peu bouger, ce qui n'arrive qu'après 80 ans de pratique, en général on est plus proche du cimetière que du ring. Mais oui, c'est... Oui, c'est, je veux dire, c'est assez logique de dire que la condition physique est importante.
Oui, enfin, pour nous c'est logique, mais finalement si on revient sur les problématiques de qui, certaines personnes un peu plus vont dire oui, mais bon, c'est un art martial interne, c'est développer le qui, il faut faire des exercices respiratoires, c'est ça qui va compter.
Alors, les exercices respiratoires, c'est juste pour l'introduction, c'est juste pour se mettre dans le bain, on va dire. Techniquement, ça sert juste à faire la transition entre la journée qu'on vient avoir au boulot et puis l'heure qu'on va faire sur le tatami. C'est juste pour se changer les idées, c'est pour calmer le rythme respiratoire, c'est pour mettre le corps en mouvement doucement. C'est tout. Il n'y a rien de métaphysique, il n'y a pas une énergie, il n'y a pas une boule lumineuse qui va se mettre à pousser au milieu de la poitrine, il n'y a rien de tout ça. C'est simplement pour, on va dire, se rincer le cerveau.
Ouais, tant qu'on est sur ça, justement, après l'épisode, il y avait une discussion sur Facebook qui s'était déclenchée à propos de la pratique de la méditation et arts martiaux. Bon, en aïkido, on commence toujours en étant tous assis en seiza et puis en se concentrant. Comment est-ce que tu vois cet aspect-là? C'est purement du rituel ou ça, c'est pour se concentrer?
Le rituel a toujours une utilité. Donc, oui, bien sûr, c'est d'abord... par respect de la tradition japonaise, parce qu'en aïkido, on est extrêmement respectueux de nos origines. D'ailleurs, ça doit être pour ça qu'on porte une jupe. Béni soient les karatékas qui ne portent pas de jupe, ça dit en passant. Mais également, oui, comme j'ai dit, ça sert tout simplement à faire la transition. On a une journée difficile, comme dans la plupart des gens. On a besoin de ce moment, on a besoin d'avoir une ligne séparatrice qui nous dit, voilà, tout ce que tu as fait aujourd'hui, tu le laisses de côté, tu laisses tes bagages avec tes vêtements sur le bord du tatami, maintenant tu es sur le tatami, tu te concentres sur autre chose, tu es à fond dans ce que tu fais, tu es sur un tatami, tu sais que si tu ne te concentres pas, tu risques de te blesser, tu risques de blesser quelqu'un d'autre. Donc il faut absolument faire une transition. Et ça, c'est très important. Donc il y a le salut de début. On entre vraiment dans le dojo. On entre vraiment dans le travail de l'aïkido. On fait son travail. Après une heure, on refait notre salut. On refait une transition. On repasse dans le monde réel. On reprend nos soucis, nos bagages, etc.
Tu as mentionné le mot tradition. Ça aussi, je disais, ben voilà, l'aïkido... Moi j'aime bien pour l'aspect traditionnel, enfin moi je disais même voilà, au Japon si vous voulez avoir une éducation, si les parents veulent donner une éducation nippone comme moi je vais faire avec mon fils, bah, il faut lui donner un triptyque quoi, c'est généralement de la calligraphie pour apprendre à écrire convenablement, les idéogrammes, et puis il faut faire un art martial, soit le kendo, soit le judo, soit l'aïkido, et puis quelque chose d'autre, par exemple de l'ikebana ou de l'origami. Enfin, c'est un peu comme ça que font les parents qui ont le désir de donner une éducation traditionnelle. Mais est-ce que, comment tu perçois toi ces aspects bah, que l'aïkido est très conservateur, comme ça on continue. Bah, par exemple, on va dire, voilà, on s'assied en seiza, bon, au Japon, je m'asseyais tout le temps en seiza, donc c'était vachement utile, enfin c'est normal, ils s'asseyent comme ça parce qu'ils s'asseyent comme ça tout le temps. Mais pour nous, on est en Occident, à part l'aïkido, on s'assied jamais en seiza, donc on pourrait s'imaginer de dire, ah bon, on peut laisser tomber cet aspect-là, ou ça correspond plus à la réalité dans laquelle on est maintenant, qu'est-ce que t'en penses?
Bon, alors le seiza c'est assez particulier parce que ce n'est pas seulement on va dire une posture de cérémonie. Bon, pour les débutants ça très bien, ça fait très mal au chi, mais le but n'est pas de les torturer à la base. Le seiza normalement c'est une position où on doit forcer le dos à rester bien droit, donc c'est d'avant tout un exercice de concentration mais aussi de muscle pour pouvoir muscler le dos correctement, pour apprendre à avoir un dos droit, correct. Le dos qui est bien droit, qui est mis correctement, permet aussi d'avoir une bonne respiration. Ça libère le diaphragme et ça permet de respirer beaucoup plus calmement. On est bien droit, on respire calmement, on est bien concentré. Donc il y a vraiment une utilité pratique au seiza. Ce n'est pas juste par le plaisir de la tradition, parce que il y a 200 ans au Japon, on aimait bien s'asseoir comme ça. Non, il y a vraiment une utilité.
Non, c'est vrai, je repensais juste dans mon cours au Japon, quand les enfants n'ont pas le dos bien droit, le senpai se ramène toujours et leur donne une sorte de baffe dans le dos, ça leur met en place la colonne vertébrale.
Alors oui, j'ai souvent eu envie de faire ça, mais je ne peux pas.
Ici, on ne frappe pas les élèves.
Alors je demande à mes assistants de passer derrière les élèves et de les remettre droit quand je les vois qu'ils deviennent bossus. Mais il y a des enfants, c'est terrible en Europe, ils sont avachis, mais c'est des véritables veaux, c'est terrible. Ils deviennent bossés quasimodo avant l'âge, c'est terriblement affreux. Donc effectivement, je passe derrière les élèves, je les force à se tenir droit.
Et puis il y a aussi l'aspect, en psycho, on conseille parfois aux enfants qui sont hyperkinétiques de faire de l'aïkido ou des sports comme ça, un art martial où ils doivent se contrôler. C'est aussi un exercice d'apprendre à ne pas bouger finalement.
Hélas pour nous, oui. Oui, effectivement, c'est un exercice, on doit apprendre à ne pas bouger, et il n'y a rien de pire que de demander à un enfant de 6 ans de ne pas bouger. Mais avec le temps, avec beaucoup de persévérance, beaucoup de patience, et un peu de Prozac de temps en temps, il y a moyen d'y arriver. Il ne faut jamais désespérer. Non, mais c'est toujours... Les enfants sont hyperkinétiques, les enfants bougent, ici et ça, j'entends ça. Des enfants qui viennent avec... Ou les parents viennent me dire, ah, il est sur Inatil, ou un médicament qui ressemble à ça... Ouais. Ça devient vraiment monnaie courante. Alors oui, les enfants sont comme ça, pourquoi? Parce qu'on les confine dans des environnements où on les force à faire quelque chose, des choses qui ne les intéressent pas, et forcément c'est le propre de l'enfant de vouloir bouger, de vouloir s'exprimer. On les tient pendant des heures en classe, ils sont obligés de rester assis, à travailler, à ne pas bouger, et après ils rentrent chez eux, ils sont obligés de faire leurs devoirs, la même chose, et après ils ont leur activité parascolaire, pour leur épanouissement personnel, bien sûr, et on leur impose de nouveau des choses qu'ils n'ont pas choisies. Fatalement, on ne peut pas demander à un enfant de rester tout le temps immobile. Mais au bout d'un moment, l'enfant finit par s'intéresser à son art martial. Il aime ce qu'il fait, il apprend à maîtriser son corps, il apprend à être, on va dire, entre guillemets, en harmonie avec les autres, parce que c'est un mot que j'utilise toujours entre guillemets, parce que je n'aime pas le côté un petit peu mystique du mot harmonie. Donc je parle d'une véritable harmonie entre les gens. Et donc là, petit à petit, l'enfant se sent bien dans son travail, et alors il a envie d'en savoir un petit peu plus dans son art martial, sur son historique et compagnie. Et à ce moment-là, il rentre dans la tradition des choses. Et alors il commence à mieux accepter, et il finit par trouver ça normal de se mettre en seiza, parce que ça fait partie des traditions d'une chose qu'il aime bien, dans laquelle il se sent bien. Et là, on n'a plus de problème du jour au lendemain, et ce n'est pas dû à un médicament, c'est tout simplement dû À la patience.
Oui, comme tu revenais sur l'aspect mystique, et puis quand même, on va un peu parler du Bushido, mais est-ce que t'as des anecdotes ou des choses liées justement à la croyance dans des gens, des pratiquants qui auraient tendance à croire au ki? Est-ce que t'as l'impression que c'est quelque chose de très répandu ou des profs qui mentionnent ce genre de choses, le japonais ou européen est-ce que... Ou bien est-ce que t'as l'impression que plutôt les profs ont tendance à évacuer ces notions mystiques ou à ne pas trop en parler?
Alors c'est bien que tu parles d'abord des professeurs, parce que je dirais, les élèves, de toute façon, ils suivent l'avis du professeur. Si le professeur leur dit, c'est mystique, vous devez concentrer une vague d'énergie pour la projeter sur le partenaire, les élèves parleront comme ça. Si le professeur dit, écoutez, tout ça c'est de la foutaise, les élèves parleront comme ça. Donc, les élèves, c'est difficile de savoir exactement ce qu'ils pensent. Sauf vous allez avec eux à la cafétéria, vous leur faire boire une ou deux bières, et là... Ils vont peut-être se mettre un petit peu plus à parler. Certains sont pour le tai chi, d'autres pour ceci, d'autres pour cela.
Ah, juste quand même, même si le prof pense que tout ça c'est de la foutaise, je pense qu'il n'y a aucun prof qui le dira aussi frontalement quand même. un prof dit
Joker. Non, franchement, on a de la chance d'être dans une fédération, on a quand même bien les pieds sur terre, on va dire. Tout ce qui est projection d'énergie, compagnie, oui, on en parle, mais on est bien d'accord de dire que c'est une métaphore. C'est une manière de faire ressentir les choses pour apprendre à contracter les bons muscles au bon moment, faire le bon mouvement respiratoire au bon moment, de manière à ce que le mouvement se fasse sans contraction, sans spasme musculaire, de manière décontractée. Mais ça n'a rien à voir avec une matérialisation d'une énergie réelle. Tout ça, c'est de la métaphore. C'est une belle histoire pour apprendre aux gens comment fonctionnent les choses. Mais ça n'a rien de surnaturel. Toute cette histoire, je n'ai jamais vu un professeur lancer de boules de feu ou de choses comme ça. Dieu merci d'ailleurs.
Mon prof au Japon, lui, était aussi plutôt... il était même très pragmatique et très... rentre dedans avec des frappes, etc. Donc c'était pas trop son style non plus. Mais je crois que dans les profs invités, on en avait quand même eu l'un ou l'autre de temps en temps qui revenait avec les histoires d'Ueshiba, qui était capable d'esquiver les balles durant la guerre de Chine, des choses dans ce style-là. Mais ça reste l'exception plus que la règle.
Ça, c'est de la légende, c'est le mythe qui s'est bâti autour d'un fondateur d'une école célèbre d'art martial. Alors oui, effectivement, il y a des histoires comme ça qui sont là. Est-ce que ça a vraiment existé? Non, évidemment, c'est là pour embellir l'image du fondateur, mais...
Puis, en plus, on peut avoir toujours des photos d'Ueshiba où il a 60 ans, mais quand tu vois les images où il en avait 20, il était bûcheron...
C'est vrai que Ueshiba, c'était quand même... c'était une bête de foire, celui-là. Oui, il avait un physique exceptionnel. Mais pour ce coup, il avait été taillé pour la guerre.
Ouais.
Il faisait un entraînement intensif. Il faisait des suspensions sur les rames de métro avec des plombs aux chevilles, des choses comme ça. Il avait une condition physique exceptionnelle, c'est certain. Mais il n'avait pas encore atteint, on va dire, l'illumination qui est arrivée que bien plus tard, en disant, écoutez, c'est très bien, la force physique et compagnie, mais quand vous êtes vieux et cassé, il y a moyen de faire mieux.
Ouais, et puis, pour terminer, finalement, il y avait aussi, récemment, il y a quand même eu une mode parmi certains pratiquants chez nous qui sont mis au shiatsu. Enfin, évidemment, c'est peut-être les élèves qui avaient des prédispositions plutôt plus mystiques dans le club, mais est-ce que... Enfin, moi, je me demande un peu, est-ce que, évidemment, l'aïkido, on a des points de pression. Bon, évidemment, on peut en donner une explication matérialiste, appuyer sur des points, sur des nerfs, des choses comme ça. Donc, ben, ça les a peut-être un peu prédisposés quand même à s'imaginer qu'il y avait des méridiens, des choses comme ça, non? Enfin, je sais pas.
Je crois que c'est juste un courant de mode.
C'est une mode.
C'est... Oui. Bon, c'est... Shiatsu... C'est un bon massage, ça détend bien. Il est certain qu'il y a des points qui sont sensibles dans le corps, tout simplement parce qu'il y a des nerfs qui se croisent à cet endroit. Et si on appuie dessus, ça fait mal, oui. Et on les relâche, on a moins mal. Et après, on est plus détendu, effectivement. Le fait de provoquer une douleur intense chez quelqu'un et ensuite de relâcher cette douleur, oui, ça a tendance à détendre le corps. Mais ça n'a rien à voir, avec des points d'énergie magique. Ce sont des points métaphoriques. C'est physique, ça n'a rien de spirituel.
Le combat au sol, t'as fait un peu de judo récemment. C'est pas quelque chose qui te semble manquer en aïkido, de maintenir quelqu'un au sol pendant 10 minutes? Non, je sais pas.
Ah, c'est vrai que ça manque un petit peu, mais d'un autre côté, on a quand même les clés, puisque normalement, une technique d'aïkido se termine soit par une projection, donc on envoie le partenaire très loin, comme ça on a le temps de s'en courir, ou alors lui a le temps de s'en courir, ou alors on le fait aller au sol et on lui tient et on le maintient avec une clé. Donc, oui, effectivement, on a quand même un petit peu de sol, on peut pas dire qu'on en a pas du tout. Si la clé est bien faite, effectivement, le partenaire ne bouge pas. Je le sais pour avoir tenu plusieurs judokas.
Ah ouais. Un des théoriciens de l'aïkido que j'avais lu, il trouvait qu'enseigner aux enfants à chuter, c'était quand même important. Moi, c'est une efficacité dans un autre combat, domaine que le combat est, mais c'est vrai que pour avoir fait quelques chutes en vélo, même en scooter, je me suis dit, bah, c'est difficilement testable finalement, est-ce que je serais tombé aussi bien, entre guillemets, si j'avais pas fait d'aïkido pendant aussi longtemps, mais... Enfin, lui, il est fort de l'idée que justement, apprendre aux enfants à tomber sans se faire mal, c'est quand même une compétence intéressante à acquérir.
Oui, j'ai eu plusieurs enfants qui ont fait des chutes à vélo, des chutes à cheval et compagnie. Les parents viennent toujours me dire, vous savez, et je l'ai vu faire des chutes comme en aïkido, donc ça l'a quand même beaucoup aidé.
Ouais.
Donc, est-ce que ça aide? Oui, franchement, ça aide. Savoir tomber, c'est quand même très important. Maintenant, encore une fois... Tout dépend de la manière dont on pratique. Si on pratique une fois par semaine et qu'on fait 3 chutes sur l'heure de travail, certains, ça ne va pas faire grand-chose. En revanche, si on travaille sérieusement et qu'on s'astreint vraiment à chaque fois qu'on tombe, chuter, 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 vous répétez ça plusieurs fois par semaine, c'est certain que le corps prend l'automatisme. Par exemple, ici, j'étais faire du judo. Bon... Le judo, c'est quand même une approche assez différente. On prend le partenaire et on le jette par terre. Après, on lui demande s'il va bien. On lui demande pas s'il est prêt. On le prend, on le jette. J'étais quand même content d'avoir appris à chuter parce qu'instinctivement, sans même par effet de surprise, je me mets en position de chute. Mm-hmm. Donc, si on le fait là, sur le tatami, même parfois en rue, ça m'est arrivé de tomber ou faire des choses comme ça, instinctivement, je prends une position de chute. Donc oui, ça aide toujours. Cela dit, tomber sur du béton, c'est toujours du béton, ça prend toujours mal.
Ah ouais, ça...
Mais on limite les dégâts, de toute façon.
Ouais, ça va, mais voilà, merci d'avoir répondu à mes questions.
Mais je t'en prie. Thank you.